Madame Tsangaraki Sami, je suis enseignante de lettres classiques au collège Gassendi et je voulais présenter le travail que nous avons élaboré avec les médiateurs du musée d'Arles, les élèves latinistes hellénistes du collège Gassendi. Durant toute cette année, ont fait des recherches autour du thème des jeux antiques, ludi antiqui. Ils ont ensuite eu la possibilité d'aller en sortie à Arles. Ils sont allés au musée antique d'Arles. Ils ont lu leurs textes respectifs au médiateur in situ au musée. Une partie des textes a été corrigée afin de répondre au mieux à l'exigence du thème abordé. Les élèves ont ensuite enregistré 39 capsules avec Madame Odile Frison pour pouvoir diffuser le fruit de leur recherche.
Relate et l'urbanisation liée au jeu public. La romanisation, c'est vivre comme un romain, c'est croire comme un romain et c'est se divertir comme un romain. Arelat est construit à partir de modèles des villes romaines et de nombreux bâtiments publics romains. On parle de romanisation culturelle, par exemple les courses de chars en grec ancien, armatodromia, en latin ludi circenses, les jeux du cirque ont favorisé la romanisation dans l'Empire et ont contribué à l'unité de la société romaine. Devinette. Pourquoi Arelat a-t-elle aussi été appelée la Petite Rome de Gaulle ? Réponse : cette ville a bien mérité son surnom de Petite Rome de Gaulle car elle possède l'un des bâtiments les plus riches de l'ensemble des monuments antiques de France.
Arelat et l'urbanisation liée aux jeux publics. Les monuments de la romanisation. Voici comment les monuments des jeux et des spectacles ont pris leur place dans la cité d'Arelat. Un plan autonormé emprunté au génie militaire est composé de deux axes perpendiculaires, le Cardo au nord-sud et le Decumanus à l'est-ouest. Le Forum d'Arles fut le premier espace urbain de la récente colonie romaine, vers 30 à 20 avant Jésus-Christ. Il est un lieu commercial, religieux et politique. Le théâtre fut achevé vers l'an 12 avant Jésus-Christ. Le public assistait gratuitement à de nombreux spectacles, mimes et pantomimes à Arelat. L'amphithéâtre fut construit entre 80 et 90 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Domitien. Dans ce monument exceptionnel s'y déroulaient de nombreux combats de gladiateurs, des chasses aux animaux et des exécutions publiques. Le cirque a été édifié en 149 après Jésus-Christ. Ce vaste monument romain a trouvé sa place en dehors de la ville. S'y déroulaient des courses de chars, mais aussi parfois des combats de cavalerie et des venationes, sorte de chasse à cour. Les thermes de Constantin ont été construites en bordure du Rhône au début du IVe siècle. Ils font partie des thermes romains les mieux conservés d'Europe. Cet édifice, lieu de détente et de loisirs à part entière, fut considéré comme une étape essentielle à la romanisation. En effet, à partir de l'Empire, moins 27 avant Jésus-Christ, les bains publics ou thermes se multiplient dans toutes les villes, y compris dans les provinces. Devinette. Près de quel édifice romain fut construit le musée d'Arles antique ? Le musée d'Arles antique fut construit en 1995 près des vestiges du cirque.
Définition des ludi. Le nom ludus désigne l'acte de jouer. Le verbe ludere signifie jouer, représenter et danser. Il existe à Rome un certain nombre de spectacles organisés par l'État, ce sont les ludi publici, c'est-à-dire les jeux publics. Les frais importants du spectacle étaient supportés généralement par l'empereur et par les magistrats municipaux. Les ludi sont une institution romaine fondamentale, religieuse et officielle. Ils offrent à toute la population des spectacles variés, accompagnés de cérémonies religieuses, processions, sacrifices, répartis sur plusieurs jours. Des représentations théâtrales, les ludi scaeni, des combats de gladiateurs, les munera, des courses de chars dans le cirque, les ludi circenses. Les jeux étaient aussi organisés à l'occasion des fêtes fixes, des célébrations du culte impérial, mais aussi au cours de représentations extraordinaires, marquant un événement de la vie de l'Empire, victoire militaire par exemple, ou de la vie municipale, élection, inauguration d'un monument. Devinette, que sont les feriae? Ce sont les jours de fête religieuses avec les jours de spectacle, les ludi. À l'époque d'Auguste, on compte 45 jours fériés à date fixe, plus quelques jours de fêtes variables, ainsi que quelques fêtes exceptionnelles en fonction des circonstances, c'est-à-dire les anniversaires des empereurs ou de leurs proches. Vocabulaire, l'inauguration est une cérémonie, un acte par lequel on procède officiellement à l'installation, à la mise en service d'un monument, d'un édifice, d'une construction.
Les acteurs et les masques. Le joueur professionnel ludius ou histrion, quelle que soit sa spécificité, comédien, tragédien, mime ou pantomime, a toujours un statut ambigu. Indispensables à la vie religieuse et au plaisir populaire, ils sont exclus de la vie politique. Admirés par les foules et rarement très bien payés, parfois immensément riches, vivant dans la proximité des nobles et des riches, ils sont aussi socialement rejetés et méprisés pour leur immoralité. Les acteurs portent parfois des masques peints, les personae, faits de plâtre et de chiffon, dont l'expression reflète le sentiment qu'éprouve le personnage à un moment donné. Le public peut ainsi facilement identifier les personnages, le vieillard, l'esclave, la courtisane ou le bon, le méchant grâce à la couleur des costumes et des perruques. En fonction des vêtements, le spectateur sait si la pièce s'inspire de l'histoire et des mythes grecs ou bien d'un sujet romain. Les costumes drapés étaient de couleur blanc pour les pauvres, pourpre pour les riches. La couleur des perruques varie également selon le type de rôle. Le jeu de l'acteur est d'ailleurs codifié par plusieurs gestuels, jeux de doigts et mimiques corporelles. Le comédien est chaussé de pantoufles, les socquis, et les tragédiens de brodequins à semelle épaisse, les cothurnes. Devinette, que veut dire exactement « persona » en latin ? Le latin en a tiré le nom « persona », qui signifie d'abord le masque porté par un acteur, puis le rôle, le caractère du personnage que l'acteur interprète, et enfin la personne, un individu avec sa personnalité.
L'amphithéâtre, un monument grandiose. C'est en 90 après Jésus-Christ, sous le règne de l'empereur Domitien, que l'amphithéâtre d'Arelate a été édifié. Ce monument a une forme d'ellipse. Il est imposant, avec une longueur de 136 mètres, une largeur de 107 mètres et une hauteur de 21 mètres. Il est l'un des plus grands amphithéâtres romains jamais construits. Il est plus grand que celui de Nîmes. Sa façade comprend deux niveaux de 60 arcades, une attique aujourd'hui disparue, surmontait la façade, là étaient fixés les mâts, servant à tendre un vélum destiné à protéger les spectateurs du soleil. L'entrée principale ne se trouvait pas au nord comme aujourd'hui, mais du côté ouest, où l'on voit les vestiges d'un escalier donnant sur la ville. Au rez-de-chaussée, la galerie extérieure est particulièrement remarquable, notamment par sa couverture de grandes dalles monolithes. Elle donnait accès à une galerie intérieure voûtée en plein cintre qui s'ouvrait sur le premier manéanum et sur la partie basse du deuxième. De la galerie extérieure, des escaliers permettaient également d'atteindre le premier entresol d'où on avait accès au deuxième manéanum, soit à la galerie extérieure du premier étage. La cavea, espace réservé aux spectateurs, comprenait 34 gradins divisés en 4 séries où les spectateurs étaient répartis selon leur rang social. Les gladiateurs et les animaux attendaient leur passage face à la foule au sous-sol de l'arène, sous un plancher qui la recouvrait. Les gradins pouvaient recevoir environ 21 000 spectateurs, dont les flux étaient savamment organisés par un réseau de portes, galeries et escaliers. La partie centrale, réservée aux jeux et combats, l'aréna, proprement dite, était séparée des gradins par un mur soigneusement appareillé. Le mur du podium était revêtu de grandes dalles de pierre. Le sol de la piste était plus élevé d'environ 2 mètres que le niveau actuel. Il était en effet formé d'un plancher en bois dont les lames reposaient sur un bourrelet de pierre, au sommet de la partie inférieure du podium. La machinerie nécessaire au spectacle logeait entre les murs et les socles qui assuraient la stabilité de l'arène. Devinette, quelle était la fonction principale du vélum ou valearium ? Il était pour fonction essentielle de protéger les spectateurs des rayons du soleil et des petites pluies, mais pas des fortes pluies, car elles pouvaient détériorer la surface. Des mâts en bois suffisamment hauts étaient disposés sur la périphérie pour supporter par des cordages l'ensemble des voiles coulissantes formant une sorte de toile rétractable. Le vélum n'était pas forcément de couleur blanche, il pouvait être teinté de couleurs vives, rouge, jaune ou verte. Les toques blanches et le marbre du monument étaient teintés. Ainsi, le spectacle se déroulait dans une ambiance feutrée. Des marins pouvaient être employés à manipuler les cordages afin de protéger les spectateurs des aléas de la météo.
L'organisation des jeux dans l'amphithéâtre. Le programme du spectacle le plus courant était le suivant. Le matin, on présentait les animaux les plus rares. Ils pouvaient venir de tout l'Empire. C'était le combat des animaux. On les opposait les uns aux autres, ou des chasses venationes. De gros gibiers ou animaux sauvages et exotiques confrontés à des gladiateurs peu formés et peu protégés, les bestiairi. À midi, les damnatio ad bestias constituaient un intermède au moment où les gradins commençaient à se vider. Quand les spectateurs allaient se restaurer, il s'agissait souvent de l'exécution de condamnés qui étaient livrés aux fauves. L'après-midi était réservé aux combats de gladiateurs, ou munuera. Plusieurs combats simultanés constituaient la phase la plus appréciée du spectacle, durant laquelle les paris allaient bon train dans les gradins. Devinette, les gladiateurs combattaient-ils uniquement dans les amphithéâtres ? Les gladiateurs, en latin, gladiatores de gladius, glaive, ces rois de l'arène étaient des combattants qui se produisaient dans des spectacles de combat armés, aussi bien dans les cirques romains que dans les amphithéâtres antiques.
Les gladiateurs. Lorsqu'un riche particulier ou un magistrat décidait d'offrir un combat, il s'adressait à un impresario, le laniste, dit lanista, qui recrutait les gladiateurs et les entraînait dans des écoles spécialisées appelées ludi gladiatori. Les troupes comportaient plusieurs catégories de combattants que l'on distinguait grâce à leurs armements et à leurs techniques de combat. Ils avaient alors droit à un entraînement et au maniement des armes afin que les combats soient plus égaux. Enfin, un tiers d'entre eux était constitué de volontaires. Dans la plupart des cas, les hommes qui s'engageaient étaient attirés par la prime offerte, le gîte et le couvert dispensés par le laniste, mais aussi par l'espoir de s'enrichir rapidement et d'acquérir la gloire. Au 1er siècle de notre ère, même si les gladiateurs sont en majorité des esclaves, tous sont volontaires et signent un contrat d'engagement à durée déterminée avec un lanista. Le philosophe Sénèque nous rapporte les paroles du serment qu'il prête « Je jure d'accepter d'être brûlé, enchaîné, tué par le fer du poignard, du glaive, de la lance ou du trident. » Devinette, que signifie « qui morturi te salutant » ? Cette expression signifie littéralement « ceux qui vont mourir te saluent ». César aurait demandé qu'elle soit prononcée par chaque gladiateur avant son entrée dans l'arène. Mais cette dernière affirmation reste incertaine. Cette expression est généralement précédée de « Ave Imperator », c'est-à-dire « Je te salue, empereur ».
Les munera. Les munera commençaient par un défilé, la pompa, où figurait le commanditaire des jeux, des musiciens. Les gladiateurs paraient de riches vêtements et portant vraisemblablement des armes de parade somptueuses. Les duels de gladiateurs n'étaient jamais le fait du hasard. La constitution des pairs découlait d'un dosage subtil, faisant intervenir la spécialité de chaque combattant et la spécificité de chaque type d'arme. Sans doute devait-on prendre en compte aussi la qualité propre du gladiateur, car elle aurait été inutile et peu spectaculaire d'opposer un vétéran aux nombreuses victoires à un novice. Les gladiateurs faisaient partie de la catégorie des infâmes, ils étaient privés de leurs droits civiques et politiques. Devinette, qui est le sécutor ? Le sécutor a une longue épée droite et un casque sans rebord pour ne pas offrir de prise au filet du rétière. Il y est opposé. Le rétière a un filet plombé, un trident, un poignard, une épaulière, une chevillère, un brassard, il est opposé au sécutor.
Les origes et leurs récompenses. Le départ était donné au son de la trompette par le magistrat qui présidait les jeux en jetant du haut de la tribune une serviette blanche dans l'arène.
Chaque course durait environ 15 minutes. Les vainqueurs sont salués par une tempête d'acclamations de la foule qui admire la force, l'agilité et le sang-froid des origes, les conducteurs de chars. Les conducteurs de chars étaient souvent de simples esclaves, malgré leurs conditions sociales, ils n'étaient pas frappés d'infamie par la société. Certains empereurs, comme Caligula, Néron, Commode ou Caracalla, ne dédaignèrent pas participer comme origes aux courses de chars. S'ils étaient vainqueurs, ils connaissaient la gloire, les honneurs par les couronnes honorifiques, des sommes importantes, voire même l'affranchissement pour certains. Devinette, que veut dire « faire naufrage » pour un aurige ? Lorsque le char perdait son avance ou bien était heurté par le suivant, il risquait de faire naufrage. Si la borne était trop près de sa course, le char pouvait s'y briser et l'aurige, à la fleur de l'âge, pouvait y trouver une issue fatale.
Les origines des Jeux du Cirque. Les Jeux du Cirque auraient été créés par Romulus lorsqu'il voulut attirer à Rome les Sabines, afin de procurer des épouses à ses compagnons lors du fameux épisode de l'enlèvement des Sabines. Comme ils furent d'abord célébrés en l'honneur du dieu Consus ou Neptune équestre, on les nomma Ludi Cusules. Cette fête du dieu Consus, elle serait liée à l'engagement et à la mise en réserve des produits de la culture. Après la construction du Circus Maximus, on les appela indéfiniment Jeux du Cirque Ludi Circenses, Jeux romains Ludi Romani et Grands Jeux Mani Ludi. En fait, les cirques de Rome étaient des hippodromes et accueillaient principalement des courses de chars, et ce qu'on appelle communément aujourd'hui Jeux du Cirque correspond à des spectacles souvent périlleux. Devinette, le cirque romain était-il utilisé uniquement pour les courses de chars ? Les Romains ne disposaient pas de stades et utilisèrent le cirque jusqu'à la fin de la République pour tous les types de spectacles.
Les jeux du cirque et les couleurs. Mais que signifiaient les couleurs que portaient les coureurs de chars lors des jeux romains antiques ? Les factions, les équipes à partir du IIe siècle, s'associaient entre elles, deux par deux. Adopter la couleur de leur aurige préférée est un moyen de montrer sa fidélité à cette course particulière ou à une faction. Elle représentait les quatre saisons. Bleu, factio veneta pour l'hiver. Vert, factio praesina pour le printemps. Rouge, factio russata pour l'été. Et blanc, factio albata pour l'automne. Sous Domitien, deux autres couleurs ont été rajoutées, mais elles n'auront pas d'impact sur les jeux. Le pourpre, purpurea, et le doré, aurata. Généralement, le peuple est pour les verts. Il va de soi que l'empereur est donc pour les bleus. Les Césars ne faisaient pas toujours preuve d'impartialité. Vitellius a exécuté ses ennemis de ses bleus. Caracalla a condamné à mort les auriges verts. Devinette, pourquoi y a-t-il sept tours dans les courses de chars ? Réponse, la course proprement dite comprenait sept tours, environ 7,5 km, en l'honneur de sept jours de la semaine et des orbes célestes concentriques des sept planètes, la Lune, Mercure, Vénus, le Soleil, Mars, Jupiter, Saturne, du système de Ptolémée. À chaque tour, on notait un des sept œufs placés sur la spina, le petit mur qui séparait en deux parties le cirque de toute sa longueur, pour en faciliter la compréhension. La superstition au quotidien et le choix des jeux pour éloigner le mauvais sort, hochets, clochettes, grelots, etc. Les Romains, si rationnels lorsqu'il s'agissait de droit et d'administration, étaient-ils donc superstitieux ? La superstition était très répandue. Elle a exercé sur presque tous les esprits une action certaine sur l'esprit romain. Tout au long de leur existence, la quête de la protection de forces surnaturelles est à l'origine de nombreuses pratiques rituel et de l'observation des signes. À la naissance d'un enfant, il convient de vérifier qu'aucune anomalie ne marque son corps. Dans ce cas, le père pouvait ne pas le reconnaître et l'exposer, c'est-à-dire l'abandonner à la rue ou encore l'éliminer. La protection des enfants apparaissait dans l'emploi de certains jouets. Le hochet en fonction de ses formes. animaux, fruits ou balles possédèrent un pouvoir protecteur. Ce jouet amusait certes, mais était également censé éloigner les esprits malfaisants. Son nom en latin, crepitaculum, du verbe crepitare, et l'expression crepundis, dès le hocher, signifie dès l'enfance, c'est-à-dire l'importance que les anciens accordent à ce jouet, doté de plus de la vertu d'éloigner, par son bruit sec et saccadé, les fruits, les esprits malfaisants et la maladie. Grelots, clochettes et sonnailles faisaient également partie de l'univers familier de l'enfant. Le son cristallin des clochettes était également considéré comme pouvant éloigner le mauvais sort. Devinette, quel chiffre romain redoutait-il ? Les Romains redoutaient le chiffre 13. Ils avaient fixé les 12 divinités de l'Olympe, les 12 constellations du zodiaque ou encore les 12 travaux d'Hercule sont autant de situations qui confèrent un nombre au nombre une dimension parfaite et sacrée, une symbolique de la complétude. Et puisque 13 suit 12 de 1 seulement, il est au-delà de la complétude, il est jugé peu fiable et opposé au divin et par extension maléfique, d'après Anne-Marie Schimmel. Apotropaïque, dérivé savant du grec apotropaios, veut dire qui détourne les mots, lui-même composé à l'aide de apo, au loin à l'écart, et trépin, tourné, qui conjure le mauvais sort, protège contre toute influence mauvaise.
La musique et les jeux. Tout comme la littérature, la musique grecque est à l'origine de la musique romaine. La musique romaine avait une dimension sociale importante, accompagnant les festivités, les cérémonies religieuses et les événements politiques. Au théâtre, dans les comédies ou les tragédies, parties récitées et chantées alternaient toujours au son de l'instrument roi, qu'était le tibia, sorte de flûte dont on jouait par paire. L'apparition du mime, sorte de comédie musicale à l'époque républicaine, puis de la pantomime, introduite par les Orientaux à l'époque d'Auguste, font évoluer la place de la musique dans les spectacles scéniques. Celle-ci prend le pas sur le texte avec le développement des chœurs, des monologues chantés et surtout de la danse. Désormais, un véritable orchestre accompagne le spectacle et au tibia se joignent les syrinx, les lyres, les sitars, les tambourins, les cymbales et les scabella. Aussi, la vie quotidienne des soldats romains, tout comme chaque fête militaire ou bataille, était accompagnée du son des instruments à vent. Devinette, pourquoi Apollon préside-t-il aux arts ? Car il est le dieu de la musique, l'art suprême pour les Grecs.
La musique ou le jeu divin d'Orphée. La mosaïque d'Orphée est une mosaïque polychrome qui était située au sol d'une chambre à coucher. Elle est constituée de tesselles, du latin tessella, carreaux en pierre et en terre cuite. Elle se compose de deux panneaux. Le panneau principal représentait Orphée assis au pied d'un arbre jouant de sa lyre à 9 cordes. Chaque corde représente une muse et coiffée du bonnet phrygien. Des animaux sauvages, captivés par sa musique, sont rassemblés autour de lui. À sa droite se trouvent un cerf, une panthère, un renard et une gazelle. À sa gauche, un taureau, un lion et un sanglier. Et au-dessus d'eux, un perroquet, une perdrix et d'autres oiseaux. Tout autour de cette scène, on trouve 16 cases avec des motifs géométriques variés. L'autre partie de la mosaïque est ornée d'une composition géométrique de couleurs ocre et noir, sur fond blanc. Des octogones, des cercles accolés et des carrés. C'est là qu'elle était posée le lit de cette chambre à coucher, le cubiculum. Cette mosaïque montre qu'Orphée, poète, musicien et chanteur grec, avait la capacité, selon la légende, d'apprivoiser les animaux sauvages et même d'émouvoir les êtres inanimés, arbres ou rochers, grâce à sa musique divine. Devinette, quelles sont les divinités des arts conduites par Apollon ? Il s'agit des 9 muses.